Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 19 mai. Un petit mardi pluvieux, sombre. Grisouille. Bon, le soleil est ici, quoi.
Oui, oui, c'est ça.
Rassure.
Ben, on est... Moi, je suis en short, d'ailleurs.
Oui, on a un habillement et d'été et d'automne.
Oui, parce que les gens nous voient pas,
on n'est pas tout à fait certain encore. Vous voulez entendre parler de voyage, de nature, de science?
On est là.
Oui. Ah ben oui, on est là comme à chaque semaine. En ces sciences, vous apportez des sujets diversifiés. Ben, je suis avec mes compères, André-Étienne
et
Yvan Deslauriers.
Bonjour.
Bonjour.
De quoi vous nous parlez aujourd'hui?
Ben moi, dans mon cas, je fais d'abord du voyage.
Ah oui?
Je vous amène au Kalahari, la terre des Beauchemins. Et évidemment, je vous explique c'est qui les Beauchemins.
Oui.
Et ensuite, je continue dans les voyages, mais là, on s'approche plus de la science. C'est un tour du monde dans un avion, pas d'essence.
Oh!
Yes, on aime ça.
Bon, André.
Bon, mais moi, je vais vous parler d'une pompe à médicaments dans le cerveau.
Oh.
Rassurez-vous, ça ne va pas vous faire gonfler le cerveau, elle est minuscule, hein?
Oui.
Mais vous allez voir que c'est des propriétés tout à fait passionnantes. Avec un autre petit article, vous avez peut-être l'habitude d'ignorer complètement le panneau « Prendre une douche avant de vous baigner dans la piscine
». Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ignorent.
Oui, il y en a beaucoup, mais vous allez voir pourquoi il faudrait prendre une douche avant de sauter dans la piscine.
Bon.
Et en seconde partie, je vous fais voyager, mais d'une certaine façon, je vous emmène au Brésil, où des moustiques transgéniques sont lâchés dans la nature pour combattre l'épidémie de dengue.
Pour une bonne cause.
Et puis, quelques petites brèves sur les moustiques qui sont assez marrants dans le monde.
De mon côté, je vais vous parler d'agriculture urbaine. Apparemment, il s'en fait de plus en plus. Des potagers, entre autres choses. Et puis, selon mes bonnes habitudes, un petit côté voyage,
je vous emmène
au canal de Panama, l'autre canal. Alors, ben, restez avec nous, hein, on a plein de choses à vous dire.
Mm-hmm. Eh oui.
Alors, des potagers pour les urbains. C'est paru dans la presse du 19 mai sous la plume de Fabienne Couturier. L'agriculture urbaine, c'est un concept qui semble nouveau pour bien des gens. Et c'est pas un phénomène récent. Et on nous dit que de tout temps, il y a des citadins qui ont aménagé des petits potagers dans leur cour. Et quant aux jardins communautaires, qu'on connaît bien, ils existent à Montréal depuis 1975.
Oui, puis... Hein? Y a-t-il beaucoup de gens qui font ce genre d'activité-là?
Bien, étonnamment, selon le directeur du laboratoire de l'agriculture urbaine à l'UQAM. Donc, c'est un monsieur qu'on doit croire. Selon lui, on dit qu'à Montréal, il y aurait environ 42 % des gens qui pratiquent ce qu'on appelle l'agriculture urbaine, ce qui m'a grandement étonné.
Un petit peu moins que la moitié des gens.
Et on croit que ce pourcentage... Oui, ça m'étonne. Et on croit que ce pourcentage n'a pas beaucoup changé au cours des années. Ça aussi, ça m'étonne.
Okay. Alors,
il nous dit que les gens ne cultivent pas plus, mais ils cultivent autrement, ou peut-être mieux. Il y a un phénomène qui fait que les gens aménagent des jardins sur des saillies de trottoirs, des terrains vagues, des bords d'autoroute même, on nous dit. Et toujours est-il qu'une pléthore d'organismes se donne pour mission de promouvoir non seulement le jardinage, mais aussi la mise en commun des ressources et des efforts.
Et est-ce que tu as quelques exemples à nous donner précisément?
Bien, il y a un mouvement qui semble intéressant qui s'appelle Jardin de rue. Et ça fait partie de ce genre d'initiative qui fait boule de neige actuellement. Ça a commencé en 2010, quand un Rosemontois a entrepris de mobiliser quelques voisins pour végétaliser, j'aime le terme, un bout d'asphalte qui bordait le trottoir de son quartier.
C'est joli.
À ce qui était au départ un projet scolaire, ça a pris des proportions inattendues. L'organisme Jardin de rue chapeaute maintenant des dizaines de projets semblables qui sont lancés par des citoyens de différents quartiers.
Ah, c'est bien.
À chaque année, ils sont des centaines à se mobiliser pour retirer l'asphalte des terres pleines de Rosemont. Avec l'assentiment, je crois, de la ville, j'imagine.
Il
la remplace par des plantes. Et le résultat, ben, c'est rafraîchissant, c'est apaisant. Et cette année, on nous dit qu'on vise le verdissement de 16 tronçons de rue. Quand on parle d'asphalte, je pense pas qu'on parle je pense qu'on parle des bordures des rues.
Mais est-ce qu'on parle le tour des arbres?
Le tour des arbres aussi, c'est intéressant. Et mettons que vous êtes, ça arrive souvent. Par exemple, vous pouvez être envahi par la menthe, le muguet, les hostas, des choses comme ça qui se répandent très rapidement. Alors, au lieu de mettre les surnuméraires, les surplus que vous avez, au lieu de les mettre au compost, il y a un réseau qui s'appelle Plant Catching, qui prend racine, et un peu partout dans le monde d'ailleurs, et qui vous permet de les offrir à tout venant par l'entremise d'un site web qui est plantcatching.com, aussi simple que ça. Et on peut aussi échanger des outils, des semences et trouver l'emplacement de jardin en libre service. Et c'est une idée mise d'avant par un collectif de Québec joliment baptisé Crack Bitume. De même,
pour boucher les poules.
C'est intéressant de mettre des fleurs.
On devrait penser aux rues maintenant, oui.
Il s'agit tout simplement de partager crack bitume, cette chose-là. Il s'agit tout simplement de partager son terrain avec une ou des personnes qui n'ont pas d'endroit où jardiner. Un mini-jardin communautaire. C'est peut-être bon de le faire avec des gens que vous connaissez un peu. Ça semble bien fonctionner en France, en Belgique. Ici, c'est encore embryonnaire. Je pense que c'est que les gens s'arrangent en privé avec des amis ou avec des parents pour faire une chose semblable. Mais c'est quand même intéressant de voir l'expansion de ce phénomène-là.
Sympathique.
Un peu dans le même domaine, est-ce qu'on peut acclimater des plantes d'intérieur, les acclimater au grand air? Selon les experts, les plantes d'intérieur peuvent bénéficier d'un séjour estival au grand air. Pour bien des variétés, il s'agit d'un environnement presque parfait. La transition vers l'extérieur doit tout de même respecter quelques grands principes. D'abord, les plantes n'aiment pas nécessairement les changements brusques, donc elles doivent s'acclimater progressivement. On prévoit de 7 à 10 jours d'acclimatation pour une plante d'intérieur que l'on sort à l'extérieur, particulièrement en raison souvent de la lumière. Donc, une façon de faire, c'est qu'on peut déposer les plantes à la base d'un arbre dont le feuillage protège les rayons du soleil. Donc, ça va l'acclimater. Mais bien que les journées soient chaudes, on en sait quelque chose ici actuellement, les nuits peuvent être encore froides. Par exemple, on a cette semaine des températures de 25-27 degrés, mais tout à coup, on annonce 12 et ça peut aller 7 ou 8. C'est trop frais. Il faut attendre que la température nocturne minimale ne soit pas sous le 10 degrés. Et c'est mieux que ça soit encore mieux, plus que ça. À l'extérieur, les plantes sont également, et ça, il ne faut pas l'oublier, plus vulnérables aux attaques des insectes. Donc, il faut inspecter la terre et les feuilles de temps en temps, particulièrement quand c'est le temps d'entrer les plantes à l'intérieur, dans la maison. Toutes vos plantes vont y passer. La plupart des plantes peuvent être sorties à l'extérieur pour vous que l'on connaisse leur particularité. À l'extérieur, l'apport en eau devra être augmenté et les plantes plus petites et fragiles auront tendance à sécher. Il faut faire attention si vous vivez en hauteur, parce que plus on monte en élévation, plus il est difficile de laisser des plantes à l'extérieur, particulièrement des endroits très venteux. Par exemple, chez moi, impossible d'avoir des plantes. Absolument impossible. Parce que je suis en hauteur. Alors, c'était deux articles différents de Fabienne Couturier et un autre de Charles-Édouard Carrier dans la presse du 19 mai.
Je vous avais promis de vous parler d'une pompe à médicaments dans le cerveau. C'est un article extrait de la revue Pour la science du 15 mai 2015, écrit par Guillaume Jacquemont. Alors, c'est une équipe internationale qui a donc développé une micro-pompe implantable dans le cerveau qui pourrait délivrer des médicaments de façon ciblée. Et grâce à ce dispositif, les chercheurs ont déjà réussi à stopper des crises d'épilepsie in vitro, on s'entend quand même, Donc, cet article, c'est le résultat d'un entretien avec Christophe Bernard, qui a dirigé le développement de cette micropompe et dont les propos ont été recueillis par le journaliste.
Alors, André, pour quel genre de maladie est-ce qu'on peut utiliser une micropompe comme celle-là?
Alors, je crois qu'il y en aurait plusieurs, mais l'équipe a travaillé essentiellement sur l'épilepsie ou une petite zone du cerveau qu'on appelle foyer épileptique qui déclenche des crises. Mais on pourrait aussi l'utiliser contre n'importe quelle pathologie qui touche le cerveau, comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Et particulièrement en ce qui concerne la maladie de Parkinson, par exemple, un neurotransmetteur nommé dopamine, essentiel au contrôle des mouvements, manque dans certaines zones cérébrales. Donc, si on arrivait grâce à cette micropompe à en ajouter de façon ciblée, on atténuerait les symptômes.
Mmh, extraordinaire, ça.
C'est pas mal, hein?
Oui.
Puis, quels sont les avantages d'un dispositif comme celui-là?
Ben, il résoudrait en fait deux grands types de problèmes qui sont posés par les méthodes actuelles. Les méthodes actuelles, ça consiste pour la plupart du temps à avaler des médicaments, hein. Alors d'abord, le dispositif, il permettrait de contourner ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, qui est une couche de cellules et de protéines qui isole la circulation sanguine du reste du cerveau et donc bloque de nombreuses substances actives. Et le deuxième avantage, c'est que la micropompe limiterait les effets secondaires puisque ça éviterait que les médicaments se propagent ailleurs dans l'organisme. Ça serait vraiment...
Plus direct.
Voilà, diffusé de façon très ciblée.
Et en quoi ça consiste, cette micropompe?
Voilà, d'accord. Il faut d'abord savoir une chose, c'est que la plupart des molécules, et en particulier les médicaments, ont une charge électrique. On s'entend là-dessus, hein? Mm-hmm. Et pour répondre précisément à ta question, Michel, il s'agit d'un petit ruban poreux qui est incrusté, lui, de charges négatives. Ces charges-là, elles attirent donc les molécules positives. Et à ce moment-là, on peut donc les stocker sur le ruban en question. Et quand on veut les libérer, on fait passer un courant grâce à une pile, qui pourrait d'ailleurs être greffée ailleurs, par exemple sous la clavicule, et ce courant engendre des champs électriques qui vont éjecter les molécules du médicament. Je précise quand même au passage, c'est dans l'article, le ruban en question, il est 20 fois plus fin qu'un cheveu. Et il est en carbone et c'est un matériau qui est bien accepté par l'organisme.
Mais est-ce que le médicament ne va pas s'épuiser rapidement?
Oui, c'est ce qu'on pourrait penser, puis qu'on ait besoin d'interventions chirurgicales itératives, fréquentes. Ben non, justement. Puis il y a deux raisons à ça. C'est que d'abord, la quantité à relâcher de médicaments va être très faible, puisqu'elle va être très limitée.
Très ciblée,
voilà. Quand on avale un médicament, la molécule active, elle est peu concentrée et elle se dilue encore dans l'organisme, puisqu'elle se répand partout. Ce n'est pas le cas du dispositif, parce que lui, il va larguer des molécules actives pures directement sur la cible où on en a besoin. Et ensuite, on envisage de ne livrer le médicament qu'à des moments précis, c'est-à-dire les moments où l'organisme en a besoin, par exemple lors des crises d'épilepsie. Pour ce faire, donc, il y a des dispositifs qui sont à l'essai chez l'homme afin d'anticiper le déclenchement des crises d'épilepsie, par exemple. Et là, il s'agit d'électrodes qui sont implantées dans le cerveau que l'on pourrait coupler à notre micropompe. Et cela durerait toute la vie du patient. Ce serait assez génial, hein?
Est-ce qu'on est près d'un résultat qu'on pourra utiliser?
Alors, bon, on a quand même un premier succès dont on disait que c'est in vitro, hein?
Oui.
On s'entend pour le moment. Et il a été obtenu sur des tranches de cerveau de souris. Le processus était le suivant. Les chercheurs rendent certaines zones du cerveau hyperactives pour comme imiter une crise d'épilepsie. Puis ensuite, ils les calment en injectant un neurotransmetteur inhibiteur qu'on appelle GABA avec la micropompe. Donc ça se passe in vitro, hein. Mm-hmm. Et toujours, il y a des tests in vitro chez la souris qui sont en cours, mais pour le moment, c'est encore difficile de prévoir quand on pourra passer à l'homme parce que les autorisations ne sont pas faciles à obtenir.
Oui.
Alors le chercheur, il ajoute quand même qu'il serait intéressant d'aller vite parce qu'environ 30% des épileptiques résistent au traitement actuel et ce dispositif pourrait apporter une solution. Actuellement, on arrive quand même à on peut retirer parfois le foyer épileptique par une opération chirurgicale, mais c'est seulement pour une partie infime de ces patients.
Et c'est assez radical aussi.
C'est assez radical aussi, c'est assez efficace, mais c'est quand même pas rien du tout. Hein?
Mm-hmm. Ça peut avoir des conséquences aussi.
Exactement, exactement. Alors, c'était un article extrait de Pour la science du 15 mai 2015, écrit par Guillaume Jacquemont.
Oui, c'est à nous. Alors, merci à Jean-Sébastien et à Mathieu pour cette chanson « Scattering of Africa » de Johnny Clegg et Savuka. Et ça m'amène maintenant dans le Kalahari, la terre des beaux chimans. Et j'ai vérifié sur certains sites d'Internet pour m'assurer de la prononciation. Semble-t-il, c'est vraiment beaux chimans.
Ah bon, parce que moi, j'avais envie de dire des beaux chimans.
OK, on y arrive.
C'est quoi
on y
ça?
Arrive.
C'est quoi ça?
C'est un article paru... Allons-y dans l'ordre.
D'accord.
Alors, c'est un article paru dans Le Devoir du 9 mai par Gary Lawrence, qui est un collaborateur. Alors, on s'en va au Botswana, un vaste territoire semi-désertique qui abrite une faune abondante, mais aussi l'un des plus anciens peuples du globe. Honni par les uns, chéri par les autres, les bâtiments du Kalahari forment le sel de la terre de l'Afrique australe et l'une des meilleures raisons pour se rendre dans ce coin du monde.
Bon, on va finalement savoir ce que c'est, les bâtiments.
La fameuse question.
Oui. Je suis toujours pressée, moi. Hein?
Les bâtiments, ça s'appelle aussi, peut-être ça va sonner des cloches à des gens, les bushmen.
Oui, oui, oui. Bushman. Ben oui, ça, moi, ça m'a rappelé, quand tu as mentionné ça, Bushman, ça m'a rappelé le film « Les dieux sont tombés sur la tête ».
C'est exactement ça.
Qui était les Bushman de Kalahari.
Oui. Alors, les Bushman ou San, ce sont les fiers représentants du plus ancien peuple d'Afrique. Du haut des airs, le Kalahari, ça donne l'impression d'éloignement, à cheval sur plusieurs pays d'Afrique australe, surtout dans les premières taches, quand les premières taches blanches tavellent l'horizon. On appelle ça les pans, P-A-N-S, comme un pan de mur. Relique d'un immense lac salé de l'Ancien Monde qui rejoignait le delta de l'Okavango, ces vastes étendues de sel durci se sont formées quand les eaux se sont retirées au gré des mouvements de la croûte terrestre et qu'elles se sont évaporées en raison des changements climatiques d'il y a une dizaine de milliers d'années. Désormais, ils forment le plus vaste réseau de déserts de sel au monde. C'est cet environnement surréaliste et hautement tripatif qui a tant plu à Jack Boosfield, un aventurier arrivé ici dans les années 70. Explorateur et chasseur de crocodiles, il a choisi de fonder un camp où il pourrait accueillir d'autres aventuriers dans l'âme avant de brusquement finir ses jours dans un accident d'avion en 1992.
Il y a un nom prédestiné à Boosfield, ça ressemble à
Boosman. Oui, effectivement. Il aurait pu donner son nom au camp, en fait.
Ben oui.
Son fils Ralph a repris l'entreprise, l'a agrandie et rénovée en 2003, dans l'esprit et avec l'ambiance que voulait créer son paternel, en lui donnant l'allure d'un campement est-africain des années 40, à la fois vieillot et ultra-luxueux. Celui-ci est entièrement éclairé aux lampes à l'huile et presque totalement dépourvu d'électricité. Hormis les sorties dans le désert avec les beaux chimans, on vient au Jack's Camp pour décrocher de la modernité en dormant dans un lit à baldaquin sous
quand
une
même.
Tente rustico-chic, avec mobilier en velours et douche en laiton sous les étoiles, ou pour paresser près de la piscine à l'abri du four solaire. L'endroit est légèrement usé par le temps, ce qui ajoute un tant soit peu à son caractère suranné. Malgré l'hostilité du cadre environnant, ce ne sont pas les bêtes qui manquent. Contingent de flamants roses et milliers de gnous, guépards, hyènes brunes, zèbres.
Oui, c'est un des parcs très intéressants à visiter, ça.
Oui, effectivement.
Kalahari.
Et surtout, les pans sont fréquentés par une forte population de lions du Kalahari, plus massifs que leurs cousins du Nord et arborant une impressionnante crinière noire. Ils sont également plus caractériels. À cause des frictions qu'ils ont eues avec les éleveurs, ceux-ci les ont longtemps chassés pour protéger leur bétail, mais désormais, ils n'en ont plus le droit.
Ça veut dire qu'ils se laissent manger leur bétail par les lions?
Non, au contraire, l'an dernier, le Botswana a en effet banni la chasse partout sur son territoire, devenant du coup un havre animalier sans pareil en Afrique. Je ne sais pas si les lions sont au courant, par contre. Mais alors qu'on permet encore à de richissimes chasseurs étrangers d'abattre de gros gibiers pour rapporter un trophée dans des réserves privées, la mise au ban de la chasse vise sans discernement tous les Botswanais, y compris les bushmans.
Ah, ça, c'est étonnant. Ça doit certainement avoir un impact sur leur façon de vivre, leur mode de vie.
Un impact important. Un homme qui n'a pas tué un animal avec un arc et une flèche demeure un enfant, dit-on, chez les bushmans. Pour continuer à chasser comme ils le font depuis la nuit des temps, ceux-ci doivent maintenant obtenir un permis. Il faut cependant savoir qu'aucun permis n'a jamais été délivré à un bushman. Pour le gouvernement botswanais, c'est une autre façon d'empêter ce peuple après l'avoir empêché d'occuper ses terres ancestrales, riches en gisements miniers dans le Kalahari central, dit une porte-parole de Survival International.
Est-ce que je peux poser une question? Pourquoi le gouvernement voudrait empêcher ces gens-là de... Pourquoi il veut les embêter?
Je pense que c'est une relation de longue date qu'ils ont. C'est un peuple qui est très ancestral avec de vieilles habitudes. Alors, c'est peut-être un mouvement vers la modernité. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Mais si de plus en plus de bushmans acceptent d'être sédentarisés et veulent accéder à la vie moderne, d'autres tiennent à perpétuer les traditions de leurs vénérables ancêtres. C'est ce que pense Xuxi Xui. C'est une dame.
Ah oui, d'accord. Oui. Ah, j'avais pas connu.
21 ans, qui est revenu vivre dans son village de Xai-Xai après l'école secondaire pour servir de guide-interprète au Jack's Camp, lequel emploie une trentaine de Bushimen. Marcher avec vous me permet de partager ma culture et de contribuer à la maintenir en vie, dit-elle, vêtue de vêtements en peau d'antilope que plus aucun Bushimen ou presque ne porte au quotidien. Comme à chaque fois qu'elle part marcher aux frontières de la du folklore et de la survie culturelle. Malgré leur extraordinaire apport à la culture de ce pays, les Bushimen demeurent couverts d'opprobre par une majorité de Botswanais. Puis là, tu as peut-être une partie de ta réponse, André. Mm-hmm. Qui les considèrent comme un peuple primitif et inférieur. Pourtant, ils comptent parmi ceux qui disposent de la plus grande diversité génétique d'Afrique. Ils font partie de l'un des peuples ancestraux d'où descendrait une majorité des humains. Et ils continuent d'évoluer dans un environnement de plus en plus hostile. Et voilà, en voilà bien assez pour justifier un séjour dans le Kalahari. Jouer aux voyeurs animaliers, c'est bien, mais toucher du doigt un fragment essentiel de l'humanité, c'est infiniment mieux. C'était un article écrit par Gary Lawrence, qui était invité de Passion Nomade et d'Air France, KLM, et c'était écrit dans Le Devoir du 9 mai 2015.
Alors moi, je vais vous parler d'un nouveau défi pour les pompiers. C'est que les pompiers de Québec seront bientôt formés pour affronter un tout nouveau danger lorsqu'ils combattent un incendie, les panneaux solaires. Mm-hmm. Et pour cause, même si les pompiers coupent l'alimentation électrique provenant du réseau d'Hydro-Québec, les panneaux solaires, eux, continuent de générer de l'énergie. Alors les pompiers sont donc à risque d'électrocution. Et pour éviter une telle situation, l'Association des pompiers de l'Ontario a produit un guide d'intervention en collaboration avec l'Association de l'industrie solaire. Donc, leurs collègues québécois s'apprêtent à le traduire, à le distribuer. L'énergie solaire va continuer à gagner en popularité et on veut être prêt, dit Daniel Perron. C'est le directeur régional de l'Association des chefs en sécurité intangible du Québec. En plus des risques d'électrocution, les panneaux solaires pourraient causer l'effondrement précoce d'un toit en cas d'incendie.
Mais ça, c'est intéressant. Je vais en parler tantôt avec mon tour du monde en avion.
Ah oui? Ah ouais. Ben parfait. Alors, je ne savais pas que je te proposais de.
Je veux dire, vous savez, il y a des pommiers qui ont été modifiés génétiquement, qui vont pousser à partir de cette année au Canada et aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils ont de différent? Ben, c'est qu'ils donnent des pommes dont la chair ne brunit pas parce qu'on a supprimé leur capacité de produire une enzyme à l'origine du brunissement. Étonnant, hein?
Oh, mon Dieu!
Pas drôle.
Écoutez Kiosque Magazine.
Alors, je vous parle de l'autre canal, qui est le canal de Panama.
Pas le canal M.
C'est de Pierre Gingras dans la presse du 21 mars. Et vous savez qu'on peut faire de l'observation d'oiseaux au canal de Panama, hein? C'est un peu étonnant. Alors, on est au début d'une excursion d'observation d'oiseaux, mais notre attention est surtout attiré par un pétrolier, un immense pétrolier d'au moins 300 mètres qui navigue tout près. Et pas très loin, il y a un immense cargo, comme un édifice qui transporte des centaines de conteneurs qui proviennent de Chine. Sur le canal de Panama, l'embarcation dans laquelle se trouvent les observateurs d'oiseaux est minuscule à côté de ces géants-là, hein? Alors, le canal de Panama, faut savoir que c'est pas une ligne rectiligne où passent de gigantesques bateaux 24 heures sur 24. Hein. Le canal devient une véritable mer intérieure qui compte une multitude de baies, d'îles, avec une végétation extraordinaire, luxuriante et extrêmement variée. Les nombreuses excursions sur l'eau permettent de découvrir une autre facette de cet ouvrage extraordinaire. Alors, s'il est possible de traverser en partie ou en totalité, les 77 kilomètres du canal. C'est un trajet d'une durée d'environ 10 heures. Mais on peut aussi participer à différentes excursions, certaines même en kayak, pour observer la faune. Ces eaux sont également prisées des pêcheurs. Donc, vous comprenez maintenant que c'est pas rectiligne.
Mm-hmm.
Donc,
ouais.
Parce que vous pouvez avoir des petites embarcations qui se trouvent à ce moment-là sur le canal.
Mais là, on côtoie des monstres.
C'est ce que j'allais
dire. Tout à fait. Oui, mais...
C'est un petit peu inquiétant quand même.
Oui, mais c'est immense. Hein? On arrive à Gamboa. On arrive à Gamboa. La Gamboa, c'est l'entrée du lac Gatun. Un immense lac, hein? Ça a été créé lors de la construction du canal il y a 100 ans. À l'époque, c'était un territoire, c'était la jungle à ce moment-là. Ah, mais le nouvel écosystème a été formé lors de la construction du barrage qui a empêché la rivière Chagres de se jeter directement dans l'Atlantique. Donc, c'est un bassin de 400
km². C'est ça, ce qui s'appelle Gamboa, c'est cette portion-là.
Oui, et ça permet de maintenir un niveau d'eau suffisant à la circulation des bateaux, particulièrement en saison sèche. Chaque passage de navire, et ça c'est assez extraordinaire, dans les trois réseaux d'écluses, ça exige 236 millions de litres d'eau.
Oh, oh, oh.
Considérable, hein? Alors, je vous mentionnais Gamboa. Gamboa, c'est un minuscule village qui compte quelques hôtels et d'où partent un grand nombre d'excursions. Et bon nombre de travailleurs affectés au dragage du canal logent ici. Ça, ce sont des travaux quotidiens qui sont menés à l'aide de dragueurs équipés de pelles, d'aspirateurs, de tuyauteries, impressionnants, et des équipements qui sont omniprésents sur le long du canal. Parce que la Chagres, la rivière dont je vous parlais, charrie des tonnes d'alluvions, surtout pendant la saison des pluies. Et il faut donc nettoyer constamment la voie principale. Alors, vous imaginez les immenses navires qui passent à cet endroit-là, hein? Le dragage a repris de plus belle avec l'agrandissement du canal. J'en parlerai dans les semaines à venir parce que c'est un ouvrage absolument incroyable. Les bateaux sont de plus en plus immenses, de plus en plus considérables. Donc, le canal ne suffit plus maintenant. Ça va permettre à des géants incroyables de pouvoir traverser. Rappelez-vous toujours qu'on n'est pas rectiligne. Hein? C'est pas un canal comme on connaît ici.
Ouais,
c'est des lacs, c'est des îlots, c'est immense, des baies. En s'éloignant de la voie empruntée par les gros transporteurs, le canal a tout à coup une autre personnalité. C'est une eau claire, des forêts tranquilles, dans laquelle grouille la vie, hein? Par exemple, c'est le cas des mignons tamarins que vous pouvez rencontrer, des tamarins à nuque brune. Un tamarin, en fait, c'est un petit singe de la taille d'un gros écureuil. Ben, le plus petit singe au monde. Et ils ne se gêneront pas pour quémander un fruit si votre embarcation est proche. Tout à coup, sur un arbre, vous allez voir un paresseux. Il faut vraiment faire très attention, hein, parce qu'il ne bouge presque pas, des paresseux. Il faut vraiment avoir un œil très, très aiguisé. Et vous allez avoir des chauves-souris qui sommeillent. Les oiseaux sont innombrables au canal de Panama. Et c'est une des destinations les plus prisées au monde pour des ornithologues. Vous allez voir des vanneaux qui se donnent en spectacle. Vanneau, c'est un oiseau avec des pattes et des becs rouges vifs.
Oh, oui.
Donc, éclatants. Et la poitrine noire. Plusieurs rapaces sont aussi à cet endroit-là. Et là où l'eau est peu profonde, on peut même apercevoir des tortues très nombreuses. Et le plus étonnant, c'est à moins d'un kilomètre d'une voie fluviale la plus fréquentée au monde, vous allez pouvoir voir des crocodiles en train de rêvasser ou de se prélasser sur les rives vaseuses. Donc, c'est loin de l'image qu'on peut se faire d'un canal. Hein?
Oui, mais des crocodiles qui rêvassent.
Oui. Ah oui, c'est ce que fait la bouche ouverte, la gueule grande ouverte. Hein? Et l'un des aspects les plus spectaculaires du canal de Panama demeure le passage des énormes bateaux dans les écluses qu'on peut absorber aux premières loges de Gatun et au centre de Miraflores, tout près de la capitale d'ailleurs. Et les visiteurs qui suivent la progression des navires centimètre par centimètre pour ensuite les voir monter et descendre. C'est assez spectaculaire. Et vous pouvez même devenir un capitaine en conduisant un bateau dans le poste de pilotage virtuel, bien sûr, du musée environnant.
Ah, oui.
Rapidement, pour terminer, des petites statistiques. Le canal a été ouvert en 1914 et quelques 20 000 ouvriers sont morts au cours de la construction, en presque totalité en raison de la malaria, dont la cause n'était pas connue à cette époque-là. J'ai mentionné 77 kilomètres et 26 mètres quand même au-dessus du niveau de la mer. Et le trafic annuel, 14 000 navires. Temps de transit, 8 à 10 heures. Main-d'œuvre permanente, 9 500 travailleurs. Donc, c'est gigantesque, c'est énorme. Mm-hmm. Et c'était l'autre canal, Pierre Gingras, La Presse, 21 mars.
Eh bien, Michel nous parlait de la malaria et donc la malaria transmise par les moustiques. Et moi, je vais vous parler d'un article donc, qui a été écrit, que j'ai trouvé dans Le Monde du 5 mai et qui parle donc des moustiques transgéniques lâchés au Brésil dans la nature pour combattre l'épidémie meurtrière de la dengue. Alors, il faut savoir qu'au moins 229 personnes sont mortes de la dengue au Brésil depuis le début de l'année, donc ça fait 5 mois, hein, 4 mois même. C'est une maladie tropicale qui est transmise par un moustique. Et pour lutter contre l'épidémie, des moustiques transgéniques ont commencé à être lâchés dans la nature.
Donc c'est des moustiques contre les moustiques, là.
Exactement, exactement.
Avec, comment ils peuvent arriver à limiter la transmission de la dengue?
Voilà, c'est ça. Ben, le principe, justement, il consiste à élever en laboratoire des moustiques mâles et à leur injecter un gène qui va endommager leurs organes génitaux et par le fait même les rendre stériles. C'est ainsi que leur progéniture, évidemment, elle meurt au stade larvaire. Et ces moustiques, donc, envoyés dans la nature en quantité deux fois supérieure à celle des moustiques non transgéniques, vont attirer les femelles pour copuler, mais leur progéniture n'atteindra pas l'âge adulte, ce qui va réduire la population d'Aedes aegypti. C'est le vecteur de la maladie. Donc cette technologie, elle a été mise au point en 2002 au Royaume-Uni et c'est une entreprise britannique qui s'appelle Oxitec qui a inauguré en juillet une usine à Campinas. C'est une ville qui est à une centaine de kilomètres de Sao Paulo. Et donc, avec cette introduction de ces moustiques, ils vont être capables de produire 550 000 moustiques OGM par semaine.
Par semaine.
Une usine à moustiques.
C'est fou, hein?
C'est donc la ville de Piracicaba, à 160 km de Sao Paulo, a donc lâché jeudi avant le 5 mai 100 000 moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre la maladie. Il faut savoir quand même que le Brésil, c'est un pays de 200 millions d'habitants et que c'est le pays qui est le plus touché par la dengue depuis 2000. 7 millions de cas notifiés, c'est quand même énorme, et ces 5 dernières années, la maladie a fait plus de 800 morts. Parce qu'il y a une forme hémorragique qui est très meurtrière. Donc, le ministère de la Santé a annoncé lundi, le 4 mai, que 745 900 Brésiliens avaient contracté cette maladie les 15 premières semaines de l'année. C'est une hausse quand même importante et significative de 234% par rapport à la même période en 2014. Donc, ça veut dire que l'épidémie s'accroît de façon assez rapide quand même. Et donc, l'État de Sao Paulo, qui est le plus peuplé du Brésil, a enregistré à lui seul plus de 400 000 cas de dengue mortels, donc sous sa forme hémorragique, et fait 170 morts. Donc, l'usine à moustiques OGM installée à Campinas a la capacité donc, de produire 550 000 insectes et sa production pourrait atteindre jusqu'à 10 millions de moustiques par mois, selon les médias brésiliens. 10 millions de moustiques. On espère qu'il ne va pas y avoir de dérive avec ces moustiques transgéniques, parce que c'est assez affolant.
Le petit gars d'école qui demande, ben, peux-tu me dire où ton père travaille? Oui. Ben, il travaille dans une usine à moustiques.
Qu'est-ce qu'il a fait ce soir?
Des moustiques qui vont piquer.
Il produit des moustiques.
Et alors, tenez-vous bien, c'est que la technologie, donc développée en 2002, l'usine qui la fabrique, Oxitec, a prévu de relâcher ces millions de moustiques autour d'une ville qui s'appelle Jocabina, dans l'état de Bahia, pour effectuer de nouveaux tests sur l'efficacité. Par contre, vous imaginez bien, et tout de suite nous viennent à l'idée des questions, c'est que la pratique a été critiquée plusieurs fois par différents ONG, organismes écologiques, parce que c'est bien beau d'enrayer le processus d'épidémie, mais on ne contrôle pas toujours tout, hein. Et des tests ont commencé en 2011, donc dans le même état du nord-est du Brésil. Et ils ont quand même montré une réduction de plus de 80% de la population de moustiques sauvages, donc vecteurs de la dengue. Des ordres de grandeur similaires ont été d'ailleurs observés lors d'opérations similaires aux îles Caïmans. Alors, j'ai colligé aussi, bon ça c'était la fin de l'article dans Le Monde, donc du 5 mai, mais j'ai cherché aussi d'autres informations sur les moustiques et j'ai quelques petits saviez-vous rigolos sur les moustiques.
Allez.
Alors, savez-vous que les moustiques, comment ils nous repèrent?
Non, je ne sais pas.
Ben, ils nous repèrent par notre respiration ou notre transpiration. Et ils auraient même des préférences pour certaines odeurs, comme celle des pieds ou de certains fromages.
Ah, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui attirent davantage les moustiques.
Alors faites attention si autour de vous, vous en avez.
Si vous sentez le fromage.
Dire. C'est ça. Bon, la chasse aux moustiques, elle a été lancée il y a bien longtemps, puisque les Indiens, à l'époque, se badigeonnaient d'une boue rouge afin de se préserver des moustiques. Et c'est d'ailleurs la raison qui les a fait appeler les peaux rouges.
Ah! Oh.
C'est ça. Ben, en tout cas, c'est ce qu'ils disaient dans l'article en question.
Parce qu'il n'y a pas la peau rouge du tout.
Hein. Ben, c'est ça. Ils ont la peau rouge parce qu'ils se protégeaient avec une espèce de boue qui était supposée éloigner les moustiques. Voilà, c'est ça. Je trouvais aussi que c'était intéressant comme petite information. En Italie, il existe un championnat du monde de tueurs de moustiques à main nue. Ça fait penser au petit tailleur, vous savez, le conte du petit tailleur qui tue 7 mouches d'un seul coup.
Le record Guinness du tapeur de mouches.
Et au Bénin, la danse des masques est préférée pour chasser les moustiques. Les moustiques, ils piquent, ils grattent, mais ils tuent aussi. Et c'est là l'enjeu réel, parce que le paludisme tue un humain, de préférence un enfant, toutes les 20 secondes dans le monde.
Oui, c'est pas sûr que nous...
Oui, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est la principale cause de mortalité dans le monde.
C'est fou, hein? De préférence un enfant, peut-être parce qu'ils ont la peau plus tendre, toutes les 20 secondes dans le monde.
Je ne suis pas sûr que le mot préférence est...
Oui, et bienvenue, c'est celui qui est écrit. Donc voilà, c'était quelques petites anecdotes sur les moustiques que je voulais partager avec vous.
Non me moleste mosquito, non me moleste mosquito, non me moleste mosquito. Retourne chez toi. Je fais la sieste moustique. Arrête un peu ta musique. Ne sois pas antipathique. Ne me pique pas. Moustique, mon vieux, tu vois trop petit. Tu as des ailes, va voir du pays. J'ai un patron plus large que moi. Vas-y de confiance, c'est moi qui t'envoie. Non me moleste mosquito, non me moleste mosquito, non me moleste mosquito, retourne chez toi. Tu me vois mélancolique, de te troubler ton pique-nique. Si tu me goûtes moustique, tu n'aimeras pas. Y'a des pays pleins de volupté, pour un moustique de qualité. À Saint-Tropez, à Honolulu, tout le monde il est gros, tout le monde il est nu.
moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, retourne chez toi. Je fais la sieste moustique, arrête un peu ta musique, ne sois pas antipathique, ne me pique pas.
Alors, merci. Dans le prochain article, on parle pas de moustiques. Pas
bon,
du tout,
bien.
Même. C'est une histoire digne de Jules Verne.
Yes, on aime ça.
Ah oui.
C'est un article présenté jeudi, le 30 avril, dans le blog de Dave Christian de Radio-Canada. Elle nous dit que « J'ai le goût de vous raconter une histoire que je trouve à la fois rocambolesque et environnementale. » Essayez de trouver une histoire avec ces deux caractéristiques-là.
Ouais,
c'est celle de deux hommes qui, un jour de 2003, décident de s'associer pour le projet Solar Impulse, qui comprend la construction d'avions fonctionnant à l'énergie solaire. Ces hommes sont un ingénieur, André Borschberg, aussi pilote de chasse et pilote professionnel d'avions et d'hélicoptères, et un psychiatre, Bertrand Piccard, un des pionniers du deltaplane.
Rôle d'association, hein, quand même. Hein?
Tu vas voir, ça donne des résultats étonnants.
Ouais.
Piccard a aussi effectué, en 1999, le premier tour du monde en ballon sans escale, le vol le plus long en distance et en durée de l'histoire de l'aviation. C'est d'ailleurs en réalisant que le manque de carburant lors de ce vol aurait pu lui faire rater son aventure que lui est venue l'idée de faire un tour du monde sans carburant. Ce qui est Jules Vernesque dans cette histoire, ça a pris du temps pour bien prononcer ce mot-là.
C'est joli, hein? Jules Vernesque.
Jules Vernesque, c'est le père de Bertrand. Jacques Piccard, océanographe, a été le premier homme à plonger au plus profond des océans dans son bathyscaphe en 1960, soit près de 11 000 mètres dans la fosse des Mariannes. Et son grand-père, Auguste Piccard, physicien et aéronaute, a été le premier homme à s'envoler dans la stratosphère et à observer la courbure de la Terre en 1931. Il a inventé la capsule pressurisée du ballon stratosphérique et du bathyscaphe et a testé lui-même ses engins. On comprend pourquoi Hergé s'est inspiré de cet homme pour créer le professeur Tournesol.
C'était très risqué à l'époque, hein, de faire ça.
Énormément risqué.
Ouais.
Le premier avion solaire du projet s'appelle Solar Impulse 1. Le 7 avril 2010, il a effectué son premier vol de jour qui a duré 87 minutes à une altitude de 1600 mètres. De mai à juillet 2013, il a traversé les États-Unis de San Francisco à New York en 6 étapes. L'épreuve était faite. Fabriqué à l'image de son prédécesseur, mais en version améliorée, Solar Impulse 2 a l'envergure d'un Airbus A380.
Wow. Le plus gros avion au monde, hein?
Oui. Le poids d'une voiture et la puissance d'un scooter.
Oh, c'est puissant, ça.
Incroyable, hein?
Ce sont les milliers de cellules solaires de l'appareil faisant 135 millièmes de millimètre d'épaisseur. Essayez de mesurer ça.
Ah, oui.
D'accord.
Et protégé par un mince film de polymère qui emmagasine l'énergie du soleil et qui permet l'alimentation des batteries servant au fonctionnement des moteurs.
Wow.
Le cockpit est si petit qu'un seul pilote est présent dans l'avion. Alors, Piccard et Borschberg alternent leur présence au volant selon les étapes. L'avion peut aller jusqu'à 8500 mètres d'altitude, mais dès que le niveau de 3000 mètres est dépassé, le pilote doit être alimenté en oxygène.
Wow. J'ai l'impression de vivre la traversée de l'Atlantique par Lindbergh. Hein?
Oui, c'est vraiment quelque chose d'étonnant.
Hein? Complètement passionnant.
Alors, lorsque les vols durent une vingtaine d'heures, le pilote n'a pas besoin nécessairement de se reposer. Par contre, lorsque des étapes comme la traversée d'océan, il va avoir bientôt celle du Pacifique, ça va prendre 120 heures, le pilote doit se reposer. Il fait donc des siestes d'au plus 20 minutes. S'il ne se réveille pas de lui-même, une alarme se fera entendre. Et si l'avion changeait d'inclinaison, ne serait-ce que de 5 degrés, une vibration sera émise sur son bras. Quand on envisage de franchir 35 000 km en 500 heures dans un avion qui dépend uniquement du soleil, on s'entoure d'une équipe qui nous suit et qui est présente dans la douzaine d'escales. Le pilote atterrit seul, mais c'est l'équipe qui remise l'avion dans un grand hangar mobile, gonflable en 4 à 5 heures, résistant aux éléments, le vent, le feu, l'eau, mais permettant aux cellules solaires de se recharger. Elle fait aussi son entretien et prépare le prochain vol. Si, puis là, André, écoute bien ça, là, ça a rapport avec tes pompiers. Si la foudre touche l'avion, il sera immédiatement détruit.
Oh, c'est inquiétant, ouais. Ça.
S'il tombe en chute libre vers l'océan, le pilote devra sauter en parachute car il risquerait l'électrocution au contact de l'avion avec l'eau. C'est là le rapport avec les pompiers de tantôt.
Oui.
Il attendra les secours à bord de son canot gonflable. Le tour du monde qui se fait de l'ouest vers l'est en 12 étapes a débuté le 9 mars 2015 à Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis, et se terminera d'après les plans en juillet prochain au même endroit.
Ah, j'étais là à ce moment-là.
À Abu Dhabi?
Ben oui, mais je ne l'ai pas vu, ça.
Mais là, présentement, le projet est un petit peu en... arrêté parce qu'on a complété les 6 premières étapes puis l'équipe attend une fenêtre météo propice pour la longue traversée du Pacifique qui les amènera à Hawaï après 120 heures de vol en autonomie complète. 120 heures, là, c'est 5 jours. Puis là, tu es au-dessus de l'océan, il faut que tu continues. Fait qu'il essaie d'avoir une fenêtre de 5 jours de bon temps. Puis cette fenêtre-là, c'est pas encore présentée.
Bon.
Certaines ressources naturelles de notre planète sont renouvelables, comme l'eau, l'air ou le soleil, mais d'autres cesseront un jour d'être présentes, telles le charbon, le pétrole et le gaz. D'après des experts, d'ici 2030, nos besoins énergétiques pourraient augmenter de 50 %. Ça veut dire qu'en 2050, si l'humain ne change pas son mode de vie, ça nous prendra 2 planètes pour assurer nos besoins. Le projet Solar Impulse peut soutenir les recherches sur les nouvelles énergies. Alors, tout ce qui est impossible reste à accomplir, disait Jules Verne.
Je vais continuer à voyager en Boeing et en Airbus. Pour le moment.
Peureux, va. Alors, une histoire digne de Jules Verne, c'est un article présenté le 30 avril dans le blog de Ève Christian. Alors, je ne vous ai pas parlé de vélo jusqu'à présent, mais il faut,
ça nous manquait.
Alors, payante piste cyclable. Ça fait des années que les organismes cyclistes le disent. Les villes qui investissent massivement dans des infrastructures cyclables en retirent de gros bénéfices. Une étude néo-zélandaise publiée l'an dernier conclut que pour chaque dollar investi dans une piste cyclable séparée du trafic motorisé, une ville peut économiser jusqu'à 24 $ en coûts reliés à la congestion routière, à la pollution et aux soins de santé.
Bon, faisons du vélo.
Ben oui, j'arrête pas de le dire.
Je vous lance un chiffre en l'air. 25 000 $. Ben, vous savez que c'est la fortune qui a été accumulée par Pockets. Qui est Pockets? Ben, c'est un singe du sanctuaire de primates Story Book Farm en Ontario, dont les toiles se vendent jusqu'à 370 $. C'est un capucin qui a 22 ans. Il utilise ses mains, ses pieds, sa queue pour créer des œuvres. Et il figure au 8e rang des animaux artistes les plus cotés dans le monde, hein? Bon, ça veut dire que parfois, les œuvres d'art, ça peut être un peu n'importe quoi quand même, hein?
Alors, à cette émission, on a parlé des tamarins puis des capucins.
Des capucins, c'est ça.
Bon, moi, je vais vous parler de mariage maintenant. Il semble que plus de femmes se disent oui. Les mariages entre deux femmes surpassent maintenant en nombre les mariages entre hommes au Québec. En 2013, 309 couples féminins se sont unis comparativement à 288 couples d'hommes, selon l'Institut de la Statistique. 10 ans plus tôt, les hommes homosexuels étaient 50% plus nombreux que les lesbiennes à convoler. Près des 3/4 des familles homoparentales sont composées de couples de femmes, selon le ministère québécois de la Famille.
Bien. En Inde, la folie de la peau blanche, qui est perçue comme le symbole d'un meilleur rang social, oui, ça gagne les hommes. Et d'après les études de marché, ceux-ci comptent désormais pour 10% de la clientèle qui se procure des crèmes de blanchiment de la peau, au nom sans équivoque comme « fair and handsome », par exemple. Ben, je crois que ceci nous amène à la fin de l'émission. Hein,
C'est tout un tour qu'on a fait.
Ben oui, toutes sortes de sujets, on s'est promené un peu partout. Hein. Alors, on espère que ça vous a plu. Alors, on tient à remercier Mathieu Tessier, qui est là.
Bonjour, Mathieu.
En compagnie de Jean-Sébastien Daliberté.
Il est en train de dire, c'est lui. Oui, c'est lui.
Merci à André, merci à Yvan aussi.
Ça nous a fait plaisir de
participer. Oui, très plaisir.
Vraiment.
Alors, vous pouvez nous rejoindre, hein, canalm.org. N'hésitez pas, on va vous lire. Faites-nous vos commentaires.
Les commentaires, vous pouvez nous les faire sur canalm@vusezvoix.com. Et on aimerait beaucoup avoir vos commentaires.
On vous souhaite une très bonne journée.